Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le Saint-Père invite les fidèles à prier le Saint-Esprit de venir illuminer leur cœur et leur esprit et à saisir l'occasion de la double canonisation du 27 avril pour approfondir leur appartenance au peuple de Dieu. Le pape François s'exprimait à l'occasion de l'audience générale. Le pape François qui poursuit son chantier de réforme. Nous ferons le point dès le début de ce magazine. Défilés et manifestations sont prévues dans plusieurs pays à l'occasion du 1er mai, surtout là où la courbe du chômage ne cesse de grimper et le pouvoir d'achat de chuter. Nous verrons que l'Église n'est pas absente du débat. En France, un évêque invite les décideurs à soutenir ceux qui peuvent créer du travail. Un jubilé pour Notre-Dame du Lot en France. Nous prendrons dans cette émission la direction de ce sanctuaire marial des Hautes-Alpes, niché à 900 mètres dans un magnifique panorama montagneux. Il attire entre 150 000 et 170 000 personnes chaque année. Le pape François a évoqué ce mercredi matin les nouveaux saints Jean XXIII et Jean-Paul II qu'il a canonisé dimanche dernier. S'adressant aux nombreux pèlerins polonais venus participer à l'audience générale, le Saint-Père a souhaité que l'intercession de Jean-Paul II soutienne le développement et l'avenir serein de l'Église en Pologne et de toute la nation polonaise. Quelques 40 000 personnes s'étaient rassemblées sur la place Saint-Pierre, dont de nombreux jeunes Français. Le souverain pontife leur a parlé du don de l'intelligence. Olivier Bonnel.
Il ne s'agit pas de la capacité intellectuelle dont chacun est plus ou moins pourvu. Le don de l'intelligence, un des sept dons de l'Esprit-Saint, est une grâce qui nous fait comprendre les situations en profondeur, qui rend le chrétien capable de scruter la pensée de Dieu et son dessein de salut. À l'image des disciples d'Emmaüs, lorsque le poids de la vie et de nos limites nous oppresse, nos esprits s'ouvrent et nos cœurs se réchauffent à l'espérance en présence du Seigneur. Toute chose reçoit alors une lumière nouvelle et nous parle de Dieu et de son amour. Le don d'intelligence qui nous fait comprendre le vrai sens de l'histoire est intimement lié à la foi. Grâce au don de l'intelligence, l'Esprit-Saint nous introduit dans le mystère trinitaire, nous ouvre à la foi et nous permet de vivre la vie chaque jour en plénitude. Il faut donc, selon le pape François, se laisser guider par l'Esprit-Saint pour qu'il allume en nous le feu de l'amour et nous rende missionnaires de la charité de Dieu. Comme les disciples d'Emmaüs, laissons-nous enseigner par l'esprit d'intelligence pour que nous puissions reconnaître, dans les événements de nos vies, le dessein de Dieu et de son amour.
Le pape François a par ailleurs profité de l'audience générale pour inviter les jeunes à avoir une conscience droite et à ne pas céder aux compromis humains. Les réformes engagées depuis le début du pontificat du pape François commencent à entrer dans le concret. Outre la réunion du Conseil des cardinaux qui poursuit ses travaux de réflexion et d'audit de toutes les instances du Saint-Siège, les nouveaux conseils ou commissions créés ces derniers mois vont tenir leur première réunion dans les jours à venir. Xavier Sartre.
Après les préfectures, les conseils pontificaux. La vaste revue d'effectifs engagée par les huit cardinaux conseillers du pape s'est poursuivie cette semaine lors d'une quatrième session de travail. Ils ont d'abord évalué généralement l'action de ces ministères en charge de sujets bien particuliers liés aux besoins de chaque époque. Ils ont ensuite étudié séparément chacun de ces dicastères pour rédiger un premier rapport. La route est donc encore longue avant un compte-rendu définitif. Ils ont également rencontré le cardinal Baldisseri, le secrétaire général du synode, en prévision du prochain synode des évêques sur la famille en octobre prochain. Ils se réuniront d'ici là de nouveau du 1er au 4 juillet. En attendant, aura lieu à partir de ce jeudi la première réunion de la Commission pour la protection des mineurs. Ses membres devraient réfléchir à la nature et aux objectifs de la Commission ainsi qu'à son intégration avec les représentants de toutes les parties du monde. Ils auront l'occasion d'en parler avec le pape qui les rencontrera. Le pape qui s'entretiendra également avec les membres du nouveau Conseil pour l'économie qui se retrouveront pour la première fois, eux, vendredi. Ils doivent mettre au point le statut de leur conseil et planifier leur travail. Les instruments de la réforme du Vatican et du Saint-Siège voulu par le pape se mettent donc peu à peu en place.
Et je vous rappelle que cette nouvelle commission pour la protection des mineurs comprend 8 membres, dont 4 femmes laïques, spécialistes de la maltraitance d'enfants. Parmi elles, la pédopsychiatre française Catherine Bonnet, qui a travaillé en Bosnie et au Rwanda. Son expérience de l'enfant et de sa fragilité en fait une des grandes spécialistes internationales. Fait également partie de cette commission l'Irlandaise Mary Collins, elle-même victime dans son enfance d'abus sexuels de la part d'un prêtre qu'elle a porté devant la justice en 1997. Elle est la fondatrice d'une ONG qui porte son nom et offre aide et assistance légale aux victimes d'abus et à leurs familles. La nouvelle commission adoptera une approche multiple du fléau de la pédophilie, de la prévention au suivi pénal, de l'éducation à la mise en place de meilleures pratiques. Dans l'après-midi du dimanche 18 mai, à l'occasion du mois de Marie, le pape François se rendra au sanctuaire de Notre-Dame du Divin Amour, à une quinzaine de kilomètres de Rome, non loin de la Via Appia, un lieu de dévotion très populaire parmi les Romains, qui organise des pèlerinages nocturnes à pied et au flambeau. Jean-Paul II s'y est rendu 3 fois, Benoît XVI est allé y prier le 1er mai 2006. La visite du pape François le 18 mai a été confirmée par le Bureau des célébrations liturgiques pontificales. Dans l'agenda du mois de mai figure également une messe le dimanche 11 mai dans la basilique Saint-Pierre, au cours de laquelle le Saint-Père ordonnera des nouveaux prêtres. Et puis du 24 au 26 mai, il se rendra en pèlerinage en Terre Sainte à l'occasion du 50e anniversaire de la rencontre à Jérusalem entre Paul VI et le patriarche écuménique de Constantinople, Athénagoras. Les évêques de Terre Sainte, quant à eux, sont préoccupés par les attaques contre les chrétiens en Israël, où de nombreux lieux de culte sont vandalisés par des extrémistes juifs. Mardi, la police a arrêté un homme soupçonné d'avoir menacé de mort l'évêque de Nazareth, Mgr Marcuzzo. Le suspect, un juif d'une quarantaine d'années, exige que tous les chrétiens, à l'exception des protestants et des anglicans, quittent Israël avant le 5 mai et menace de tuer l'évêque et l'ensemble de sa communauté s'il n'obtempère pas. Dimanche, des actes de vandalisme et de profanation ont été perpétrés par des adolescents contre l'église de Tabqa, sur le site où Jésus a multiplié les pains. Dans la même journée, une église orthodoxe était la cible d'une agression pendant un baptême. À moins d'un mois de la première visite du pape François en Terre Sainte, les évêques regrettent l'absence de réponse de la part des autorités à ce phénomène dangereux. Depuis 2009, des attaques ont ciblé une trentaine de mosquées ou de couvents chrétiens. Le sanctuaire de Notre-Dame du Lot dans le sud-est de la France est en fête. Ce 1er mai s'ouvre en effet une année jubilaire pour célébrer le 350e anniversaire des apparitions de la Vierge à Benoîte Rancurel, une jeune bergère née en 1647. Pendant 54 ans, Marie apparaîtra à Benoîte et les pèlerins seront de plus en plus nombreux à affluer au Lot. Les témoignages de guérison spirituelle sont nombreux. Des croyants, mais pas seulement, qui viennent se laisser réconcilier, comme l'indique le message de la Vierge. Elle devraient être encore plus nombreuses avec cette année de fête. Mgr Jean-Michel Di Falco Léandri, évêque de Gap et d'Embrun, revient sur les temps forts qui vont rythmer cette année jubilaire.
C'est tout au long de l'année que ça va se passer, avec un grand nombre de célébrations diverses, proposées un peu à tous les publics, à des étudiants, avec une retraite pour les prêtres, une retraite pour les religieuses. Nous aurons l'ouverture de l'année jubilaire en présence de Mgr Ventura, le nonce apostolique, et l'année jubilaire sera clôturée par le cardinal Amato, qui est le préfet de la Congrégation pour la cause des saints.
En quoi, Mgr Di Falco, le message de Notre-Dame-du-Lot, c'est encore d'actualité aujourd'hui pour les catholiques?
Eh bien, je pense que ce message est d'autant plus que jamais d'actualité, puisque c'est un message de réconciliation. Je pense que dans une époque où on voit autour de nous tant de divisions, ce message-là est tout à fait d'actualité. Et quand je parle de réconciliation, je le situe à 3 niveaux. Réconciliation déjà avec soi-même. Quand nous voyons un certain nombre de personnes que nous accueillons au sanctuaire qui sont en souffrance, qui ne parviennent pas à s'aimer. Or, c'est bien ce que le Christ nous dit quand on vient l'interroger sur le plus grand des commandements. Il dit bien, tu aimeras ton Dieu plus que tout, ton prochain, comme toi-même. Et on fait beaucoup de commentaires sur l'amour de Dieu, l'amour du prochain, mais assez peu de choses sur l'amour de soi-même, alors que Dieu nous donne comme mesure de l'amour des autres, l'amour que nous avons pour nous-mêmes. Donc réconciliation avec soi-même, réconciliation avec les autres et réconciliation avec Dieu. Et je pense que ce sont un peu les 3 pivots sur lesquels s'appuie la réconciliation à une époque où malheureusement nous voyons autour de nous, que ce soit entre pays, que ce soit au sein d'un même pays, que ce soit au sein parfois de certaines familles, eh bien, ce message-là est plus que jamais d'actualité.
Pour ceux qui vont venir à Notre-Dame-du-Lot pendant cette année, comment est-ce que vous avez des conseils à donner pour vivre en particulier ce jubilé?
Vous savez, les conseils, c'est un lieu. Le sanctuaire Notre-Dame-du-Lot bénéficie d'un cadre assez unique, puisque c'est vraiment au cœur d'une forêt, dans une toute petite commune, dans un hameau. Et donc, le conseil qu'on peut donner, c'est d'arriver avec le cœur ouvert, dans la simplicité de ce que l'on est, dans la vérité de ce que l'on est. Et puis, ben, voilà, se laisser accueillir et se laisser porter par tout ce qui sera mis à la disposition de ceux qui se présenteront, qui ne sont pas nécessairement, comme on le voit tout au long de l'année, des chrétiens pratiquants ou des fidèles, mais aussi tout un chacun qui vient découvrir et qui repart parfois réconforté pour affronter à nouveau les épreuves qui peuvent se présenter dans une vie.
Monseigneur Di Falco, on connaît bien entendu Bernadette Soubirous, on connaît un peu moins bien Benoît Trancurel. En quoi est-ce important aujourd'hui de se souvenir de ces figures, de ces jeunes filles pauvres, simples, à qui la Vierge est apparue? Qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui pour les chrétiens?
Je crois qu'on voit bien que, quel que soit d'ailleurs ceux qui ont eu le bonheur d'avoir une apparition, que ce soit Bernadette Soubirous, que ce soit Benoît Trancurel pour Notre-Dame-du-Lot, que ce soit les enfants de Fatima, que ce soit les enfants de Notre-Dame-de-la-Salette, c'est toujours, elle s'adresse à des personnes d'une grande simplicité, d'une grande modestie. Et ça rejoint le message que nous adresse assez régulièrement le pape François, eh bien, d'une église pour les pauvres. Je crois que c'est bien le signe que nous donne la Vierge Marie au travers des apparitions. Elle s'adresse au cœur simple.
L'évêque de Gap, Mgr Di Falco, interrogé par Olivier Bonnel. C'est également ce jeudi 1er mai que commencent les célébrations du cinquantenaire de la fondation en France du mouvement de l'Arche. Du 1er au 3 mai, plus de 2000 personnes se retrouveront à Paray-le-Monial pour fêter ce jubilé. Fondée par Jean Vanier, l'Arche a pour mission de faire connaître le don des personnes ayant un handicap mental à travers une vie partagée et de leur permettre de prendre leur juste place dans la société. Aujourd'hui, l'organisme est présent dans près de 40 pays répartis sur les 5 continents et compte 145 communautés constituées de plusieurs foyers d'hébergement et d'ateliers de travail. Journée de mobilisation des travailleurs, mais aussi des chômeurs ce jeudi 1er mai, alors que la crise de l'emploi et les politiques d'austérité frappent durement les jeunes et les retraités, mais aussi les salariés. À l'appel des syndicats, de nombreux Européens vont descendre dans la rue pour revendiquer davantage de justice sociale et la mise en œuvre de véritables politiques de relance économique favorisant la création d'emplois de qualité. En France, un jeune sur quatre est au chômage. Plus de 80% des embauches sont réalisées en CDD. En cette fête de Saint-Joseph, artisans et travailleurs manuels, l'Église a aussi son mot à dire, Cyprien Viette.
Comme il le fait depuis 4 ans, l'évêque de Soissons, Lens et Saint-Quentin a publié un message dans lequel il souligne le lien entre travail et entreprise, d'autant que le département de l'Aisne souffre d'un taux de chômage très élevé. Selon Mgr Hervé Giraud, il revient aux entrepreneurs de créer de la richesse et de la partager par le travail. Mgr Giraud reconnaît que ce n'est pas le rôle premier d'un évêque que de résoudre des questions sociales, économiques ou financières, mais explique-t-il, l'Église catholique souhaite soutenir, encourager tous ceux qui œuvrent pour le bien commun en entreprenant. Elle propose sa doctrine sociale qui n'est ni une idéologie, ni un catéchisme politique, ni un projet de société, ni une doctrine économique, ni un modèle utopique, mais une réflexion sur les réalités complexes de l'existence de l'homme en société, conduite à la lumière de l'Évangile. Les idées existent, des projets aussi, cependant les mécanismes qui leur sont nécessaires sont devenus souvent trop lourds, les démarches administratives trop compliquées, sans compter la financiarisation des entreprises et les délocalisations, conséquences d'une économie mondialisée. D'où son appel à la prise de responsabilité, chacun doit apporter sa contribution par des choix éthiques de consommation ou de placement de son argent pour que le nombre de chômeurs diminue. Quant aux chefs d'entreprise, ils devront sortir des sentiers battus pour innover et donner du travail aux autres.
Il y a un an, le 1er mai 2013, le pape François avait appelé les hommes politiques à tout faire pour relancer le marché du travail et créer des emplois. Le Saint-Père avait souligné que le travail est essentiel pour la dignité et que le chômage est le résultat d'une vision économique fondée sur le profit égoïste en dehors des règles de justice sociale. En associant Jean XXIII et Jean-Paul II dans une même cérémonie de canonisation, le pape François a mis en évidence dimanche le Concile Vatican II dans ses intuitions fondatrices et dans ses conséquences pastorales. À Rome, la double canonisation du 27 avril a d'ailleurs été précédée d'un congrès de 2 jours sur l'Église en Afrique depuis le Concile Vatican II jusqu'au 3e millénaire. Réunis à l'Université Pontificale Urbanienne, des évêques, prêtres, théologiens, étudiants et personnalités de la culture africaine ont dressé un bilan de la l'application du Concile Vatican II qui a marqué un tournant majeur pour l'Église catholique sur ce continent. Nous avons recueilli les impressions de l'un des participants, le cardinal Adrien Sarr, archevêque de Dakar.
Le Concile Vatican II a été important pour l'Afrique, disons, dès son départ. Dans ce sens que l'objectif du Concile Vatican II, de faire que l'Église catholique puisse prendre un tournant pour pouvoir mieux s'adapter aux conditions du monde et au contexte plutôt mondial de l'époque, le contexte culturel, social, économique, cela convenait très bien à l'Afrique parce que d'une part, en ce moment-là, beaucoup de pays d'Afrique entraient dans l'indépendance, donc dans la gestion des nations par elles-mêmes, mais également les églises d'Afrique elles-mêmes commençaient à avoir une hiérarchie locale. Donc c'est vraiment un moment où l'Afrique se prenait en charge au niveau politique, au niveau social et au niveau ecclésial. Donc le Concile Vatican II arrivant pour inciter l'Église à donner davantage, à faire davantage attention aux réalités actuelles de l'époque et deuxièmement aux cultures des peuples, eh bien a permis que l'Église en Afrique est entrée d'emblée avec le Concile Vatican II dans une étape majeure de sa croissance. Prise de conscience de ses richesses culturelles plus grandes et surtout prise de conscience de son statut ecclésial, de son être ecclésial pour pouvoir voir comment mieux intégrer, assumer la foi chrétienne, accueillir la foi chrétienne avec ses richesses culturelles et également exprimer la même foi chrétienne avec ses richesses culturelles.
Pendant les 50 ans qui vont du Concile à aujourd'hui, se sont déroulés deux synodes des évêques pour l'Afrique, deux synodes des évêques africains. De quelle façon cette assemblée a recueilli l'hérédité du Concile et quelles indications nouvelles ont donné à l'Afrique?
Par exemple, le premier synode, je me rappelle très bien comment les pères synodaux ont insisté pour dire qu'il faudrait qu'en Afrique, nous privilégions l'image de la famille pour désigner l'Église. En nous appuyant à la fois sur la place de la famille dans les peuples africains, dans les sociétés africaines, dans leur culture, et l'importance de la famille, pour, à partir de ces réalités africaines que nous connaissons bien, nous tourner vers l'Église et appréhender l'Église comme une famille, vivre en Église comme une famille. Donc c'était un moment très important d'inculturation. Ça veut dire regarder l'Église comme une famille et bâtir l'Église en Afrique comme une famille pour que les membres de l'Église, les membres africains de l'Église, puissent vraiment s'intégrer, s'impliquer pleinement dans la vie de l'Église et la construction de l'Église comme Église famille de Dieu, et également dans la mission de l'Église devant annoncer la bonne nouvelle du salut.
Pour ce qui concerne le deuxième synode des évêques?
Alors, le deuxième synode, donc le synode sur l'Église en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix, eh bien, cela permettait que l'Église, après avoir pris conscience et après avoir voulu se bâtir en Afrique comme l'Église famille de Dieu, comme la famille de Dieu, eh bien, que cette famille apprenne justement à se réconcilier à l'interne avec elle-même. Par exemple, l'Afrique qui se réconcilie avec ses cultures, l'Afrique qui se réconcilie avec son passé. Et maintenant, voir comment, à partir de cette réconciliation également, elle-même, l'Église en Afrique, aider les autres peuples, les peuples africains à vivre la réconciliation, à se réconcilier avec leur culture, avec eux-mêmes, pour bâtir en présent et en avenir meilleur. Et donc, en ce moment-là, l'Église en Afrique, en tant que famille de Dieu, va consolider son être famille pour pouvoir justement mieux accomplir l'annonce de l'Évangile comme promotrice de la paix pour les hommes à travers l'application d'une plus grande justice.
L'Afrique se transforme. Comment les indications du Concile peuvent aider l'Afrique dans cette transformation et quel rôle l'Église peut jouer dans cette transformation?
Cette transformation doit nous amener, les peuples africains, à dépasser toute leur lutte, tous leurs combats internes qui mobilisent les énergies et empêchent que les énergies puissent être utilisées au développement de l'Afrique. Ensuite, maintenant, une fois en espérant que cette réconciliation va grandissant, eh bien, en ce moment-là, toutes les forces africaines seront mises dans l'application de la justice pour tous et ainsi la construction de la paix.
L'archevêque de Dakar, interrogé par notre confrère de la rédaction italienne, Davide Maggiore. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie, mais je vous invite à nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican, en français.